continue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique à votre avis. Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington. En République démocratique du Congo, 55 soldats congolais ont été condamnés à mort par le tribunal militaire de garnison de Butembo pour désertion et autres crimes liés au conflit dans l'est du pays, dont des viols et des pillages. D'autres audiences vont être organisées avec la comparution de militaires arrêtés notamment à Beni et Oicha. Depuis 2024, plusieurs condamnations ont été prononcées pour tenter de résoudre les problèmes de discipline et de désertion dans les rangs de l'armée. L'avancée du M23 a provoqué une déroute dans certaines zones où des membres des FARDC ont déposé leurs armes. Des points de contrôle ont été mis en place pour filtrer les populations et stopper les déserteurs. Et l'on se souviendra même qu'en juillet 2024, une cinquantaine de soldats avaient déjà été condamnés pour désertion, notamment à Limbongo. Alors, que faire pour se doter d'une armée professionnelle et disciplinée? Qu'en est-il du recrutement des soldats et de leur formation dans votre pays? C'est la question qu'on va se poser ce soir. Nous avons comme invité le docteur Didier Badjek, colonel à la retraite, ancien porte-parole de l'armée camerounaise, spécialiste en stratégie militaire et sécurité. Merci beaucoup, docteur, d'être avec nous.
Oui, c'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous de l'autre côté de la mer, de l'océan.
Voilà. Alors, avant de commencer, on voudrait préciser qu'il ne s'agit certainement pas de critiquer l'armée. L'armée, nous savons que de nombreux valeureux soldats meurent au combat. Donc, l'objectif, là, n'est pas de critiquer, mais de voir effectivement ce que l'on peut faire pour améliorer justement le professionnalisme de certaines armées. Alors, on sait que dans toute guerre, il y a des déserteurs. Et je pourrais peut-être commencer par cette question-là, l'une des questions principales. Monsieur Didier, au niveau de la vocation, parce que l'on sait que finalement, dans beaucoup de pays d'Afrique, on peut aussi s'engager, pas seulement en Afrique, on peut aussi s'engager dans l'armée pour lutter contre le chômage, mais la question de la vocation, du coup, elle n'a plus aucun sens ici. Donc, quel est votre point de vue sur la question de la vocation? Est-ce que vraiment, c'est une vocation de travailler dans l'armée et d'être militaire?
Oui, cette vocation s'édulcore, ça certainement, au fur et à mesure que nous vivons dans un monde qui devient beaucoup plus tendu sur le plan professionnel. Vous comprenez qu'il y a des jeunes gens qui, à défaut d'avoir des professions ailleurs, peuvent considérer que l'armée devient pour eux la seule issue. Et on commence à ne plus avoir, n'est-ce pas, cette homogénéité de militaires qui sont rentrés par pure vocation et qui sont capables de pouvoir sacrifier leur vie pour sauver la République, pour sauver la nation.
Est-ce qu'une vocation, on peut la faire naître? Parce qu'on rentre très jeune dans l'armée. On rentre à l'âge de 18 ans, même plus tôt dans certains pays. Est-ce que par exemple, parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire dans la vie aussi, est-ce qu'il y a des moyens, des méthodes au niveau des formations de repérer certaines recrues qui ne seraient pas vraiment motivées et de les amener à avoir vraiment finalement au fil du temps cette vocation? En quelque sorte.
Oui, déjà, la dureté de la formation permet d'écarter ce genre de personnes. C'est-à-dire que c'est une formation de masse. Au départ, il y a certainement des gens plus courageux que d'autres. Mais au fur et à mesure que la formation avance et monte en intensité et en difficulté, eh bien, il peut avoir déjà au cours des formations des désertions. Moi, dans ma promotion, ça c'est arrivé. Il y a eu un élève officier qui est parti. Et bien entendu, il y en a qui sont beaucoup plus faibles. Mais dans l'ensemble, c'est-à-dire que comme c'est une formation de masse, eh bien, cette masse-là réussit toujours à aiguiller à nouveau tous ceux qui seraient fragiles pour qu'on ait une formation qui soit moyenne, qui soit homogène. Nous avons vu, il y a des gens qui sont un peu plus forts physiquement que d'autres, c'est également sur le plan moral. Donc c'est une formation de masse qui permet également d'obtenir ces objectifs, de fortifier par les modules que le soldat rencontre, n'est-ce pas, fortifier sa citoyenneté, son patriotisme, son courage. Et au fur et à mesure qu'il s'en va, il se dit, mais j'ai pu, et c'est un facteur d'émulation pour lui.
Mmh. Et de voir, on imagine aussi quelles sont les qualités des uns et des autres, hein, parce que dans l'armée, on a aussi plusieurs postes. Alors, docteur, restez avec nous, on va écouter une ancienne députée, ancienne présidente de la Commission des Affaires étrangères du Mali, c'est Aissatou Touré Diallo.
Par rapport à la situation des soldats, surtout les recrutements, il y a beaucoup de problèmes dans nos pays qui connaissent des situations assez critiques en termes d'insécurité, des situations assez critiques en termes de ressources limitées, tout ce qui rentre en ligne de compte dans le recrutement, la formation des soldats. Pour avoir une armée professionnelle, combien de temps il faut? Quels sont les moyens qu'il faut? Quelle est la formation appropriée entre les guerres conventionnelles et les guerres asymétriques? Comment l'État met en place un système pour avoir des soldats efficaces, capables de répondre à tous les cas de figure? C'est autant de facteurs qu'il faut prendre en compte pour voir comment le recrutement se fait. Les jeunes recrues, parfois, qui viennent simplement parce qu'ils veulent un métier, pas par vocation. Il y a d'autres aussi, c'est l'effet de mode. On se dit que quand on est militaire, par ce temps du coup, on peut avoir accès à tout en très peu de temps. Donc tout cela soulève beaucoup de questions. Mais les formations doivent être étudiées et harmonisées pour répondre aux différents défis des pays. Par exemple, dans les pays du Sahel qui connaissent l'insécurité à cause du terrorisme, et la formation doit être axée sur ce volet-là, avec vraiment une formation au niveau mental, niveau moral, niveau éthique, pour que les militaires, les soldats recrutés puissent vraiment être en mesure de répondre aux menaces et aux défis lorsque les situations se présentent. Et sur le long terme, on doit donner le temps pour que les gens soient préparés mentalement, physiquement, moralement, pour pouvoir répondre à certaines situations.
Alors, docteur Didier Badjek, vous avez entendu, elle a parlé notamment, donc, Aissatou Touré Diallo, de la question des guerres asymétriques. Et c'est le cas en Afrique, hein, dans la plupart des lieux où on a des conflits armés, on n'est pas du tout dans des guerres dites conventionnelles, hein, comme on pourrait dire, par exemple, à Gaza ou entre l'Ukraine et la Russie. Hein, et on est dans des guerres où on a des groupes djihadistes, on a des milices, même l'Est de la République démocratique du Congo, c'est, paraît-il, des dizaines, voire plus de 100 groupes armés qui agissent là-bas, en tout cas de milices. Donc, est-ce qu'il y a en Afrique vraiment des formations spécifiques et en tout cas qui évoluent au fil du temps? Parce que ce sont en effet des conflits qui sont extrêmement changeants.
Cette dame a posé exactement le problème comme il le faut, c'est-à-dire c'est un problème qui est un problème stratégique au départ. Quelle est l'armée que nous voulons, quel est le format de l'armée que nous voulons en fonction de la typologie de la menace? Et c'est ça qui est le véritable problème. Aujourd'hui, déjà, dans la qualité du recrutement, les armées africaines sont butées généralement au caractère prétorien de l'armée, qui ne fait pas face, n'est-ce pas, au chapelet de menaces qui est visible. C'est ça qui est le plus grand problème. Il faut être capable, à la base, de pouvoir écrire un livre blanc, ce qui est le péché de le bon nombre d'armées africaines. Parce que je dois vous dire déjà que le livre blanc, c'est une politique nationale de défense qui devrait être écrite par des personnes qui sont autres que les personnes militaires, en l'occurrence les ministères régaliens, les polémologistes, c'est-à-dire des chercheurs, et les militaires qui viendraient parce que c'est eux qui sont à l'emploi de cet élément. Lorsqu'on a donc comme ça identifié les menaces, on fait agir un certain nombre de paramètres et on justifie donc maintenant le caractère de la formation que l'on veut inculquer, n'est-ce pas, aux caractéristiques des défis et des enjeux. À partir de ce moment, on crée des formations, on crée des modules de formation qui sont adaptés. En général, pour ces menaces asymétriques, eh bien, on va certainement associer, n'est-ce pas, des armées qui font de la techno-guerre et qui font aussi de la guerre heuristique, parce qu'il faut savoir durer sur les théâtres des opérations. Donc, ça requiert beaucoup plus de qualité physique que si jamais l'on recrutait une armée qui devrait vaquer à des occupations de défense ferme, par exemple, du territoire où il y aurait des moyens technologiques pour pouvoir
Allô ?
Exécuter ce genre de mission, voyez-vous.
Ouais.
C'est un problème stratégique au départ, savoir pourquoi est-ce que l'on doit créer l'armée pour faire face à quelle typologie de menaces.
Alors, on va se rendre une petite minute en République démocratique du Congo pour écouter la journaliste et politicienne Joëlle Billet.
Sans état d'âme, donner une leçon exemplaire à tous ces officiers affairistes, parce que malheureusement, il en existe. Il faut à tout prix donner et mettre des conditions et des salaires militaires qui soient humanisés, c'est-à-dire de nouvelles raies de casernes, de nouvelles habitations, des écoles, des cantines, des hôpitaux, des centres de sport. Et les promotions des grades devraient se faire sur base de la méritocratie. Il y a aussi la question du recrutement, qui ne doit pas se faire en désordre, comme c'est le cas à peu près maintenant. Il y a plus de critères, malheureusement, dans notre armée. Alors, ce que je viens de vous énumérer sont coulés dans une loi qu'on appelle la loi de programmation militaire qui existe en République démocratique du Congo et pour laquelle il faut simplement une mise en œuvre stricte. De quoi parle cette loi de programmation militaire? Il y a spécifiquement la question des réformes institutionnelles. Déjà pour commencer, il y a les critères et les conditions de recrutement. Il y a la formation continue, mais il y a précisément aussi la question de chaîne de commandement et deuxièmement la question d'orthodoxie et de transparence financière. C'est là qu'il va falloir mettre un accent véritable pour que demain, nous n'ayons plus à subir le type de débâcle que nous avons connu dans le nord et dans le sud Kivu qui met aujourd'hui notre population dans des conditions presque misérables.
C'était donc Joël Bilé en République démocratique du Congo. Alors, docteur Didier Badjek, vous avez entendu, elle a évoqué plusieurs points. Je voudrais revenir sur la question du recrutement dont vous avez parlé tout à l'heure. L'on sait que dans de nombreux pays, en tout cas dans de nombreux cas de conflit, le recrutement effectivement est un petit peu aléatoire. On va embaucher, on va prendre de nouvelles recrues qui sortent de groupes armés, etc. Il y a les accords qui se font et on intègre les groupes armés et on se trouve même dans des situations où parfois certaines armées peuvent être dirigées par d'anciens rebelles. Donc c'est le cas dans beaucoup de pays d'Afrique. Donc qu'est-ce que vous suggérez vous par rapport à cela, parce que c'est un sujet délicat et qui du reste est même très politique en somme.
Oui, elle pose un problème qui est fondamental, c'est-à-dire un problème de doctrine d'emploi des forces qu'il faudrait établir à la mesure du kaléidoscope sécuritaire. Et même, il faudrait aller un peu plus loin que ce qui se passe à l'instant, être capable de pouvoir lire les futuribles et savoir que, n'est-ce pas, on peut avoir tel défi adaptatif. Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que, à la base, si les recrutements, non seulement ils ne sont pas qualitatifs avant d'être quantitatifs, qu'ils ne se font pas selon, n'est-ce pas, le caractère national de cette nation qui recrute, eh bien, il y aura un problème. On va avoir des armées prétoriennes et on a des armées, n'est-ce pas, où des militaires ont une tendance à s'embourgeoiser. C'est ce que l'on voit, n'est-ce pas, avec une qualité d'officier aujourd'hui qui font tout sauf préparer la guerre en deux paix, préparer l'instruction et préparer sa condition physique. Eh bien, c'est cela. Alors, pour ma part, je pense que il y a ce problème qui est posé, mais également, il y a un problème véritable qui est fondamental. Au départ, c'est celui de la réforme des armées africaines. Ces armées, aujourd'hui, ont hérité, pour la plupart, n'est-ce pas, de la mouvance de post-indépendance et des armées coloniales. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'elles soient adaptées aux exigences, n'est-ce pas, que requièrent les conditions de sécurité qui sont engagées en Afrique. Donc c'est ça qui est le véritable problème. Les armées qui ont réussi aujourd'hui, qui ont réussi à faire face à leur mission régalienne de défense, eh bien ce sont des armées qui sont reformées. Et cette dame, cette journaliste a évoqué effectivement ce problème doctrinal qui était posé, qui se pose dès le départ, parce que il faudrait être capable de structurer la chaîne de commandement, savoir comment est-ce que cela s'emboîte de manière gigogne et être capable de faire face aux véritables défis. Mais aujourd'hui, lorsque on voit ces recrutements, les armées ne sont pas nationales. Ces armées ne sont pas nationales et on se rend compte que la sécurité existe autour des capitales où il y a le pouvoir et que l'administration disparaît au fur et à mesure que l'on s'éloigne de ce pouvoir, de cette capitale ou alors de ces agglomérations. Or, l'armée devrait avoir une présence territoriale. Eh bien, je voudrais dire donc que il y a une organisation qui devrait être faite, une réforme qui devrait baser sa politique sur le rajeunissement, sur le professionnalisme et sur l'équipement des forces. Mm-hmm. Parce qu'il faut dire aussi que, eh bien, les militaires n'ont pas souvent l'équipement qui correspond, n'est-ce pas, aux missions qui les interpellent.
La question de l'équipement, en effet, qui est une grande question. En République démocratique du Congo, écoutons à présent un auditeur de VOA Afrique, c'est Espérant Kabalé.
Il est crucial d'effectuer des réformes organisationnelles et structurelles pour moderniser l'armée congolaise. Cela inclut la réorganisation des unités militaires, créer des unités spécialisées et adaptées aux défis actuels, par exemple des forces d'intervention rapide, des unités de maintien de la paix, des forces spéciales, la centralisation et la coordination, mettre en place une structure claire de commandement avec une coordination efficace entre les différentes branches de l'armée, terre, air et mer, et des services spécialisés comme la logistique et les renseignements. Il faut donc qu'il y ait une formation académique pratique, afin qu'il y ait la sélection rigoureuse. Et dans la sélection rigoureuse, les recrues devraient être fondées sur des critères de compétences, d'intégrité et de leadership, et non sur des considérations ethniques, politiques, tribales ou des groupes de milices qui viennent imposer au gouvernement de les enrôler avec leurs fonctions d'embousse. C'est ce qui a fait à ce qu'il y ait un brassage et un mixage. C'est ce qui a permis à ce que dans notre armée qu'il y ait infiltration de certains militaires des nationalités hors celle de notre pays et installer des écoles de formation militaire adéquates pour permettre à ce que nous ayons des militaires très bien formés et une motivation vraiment consistante. Aujourd'hui, les militaires sont payés pas moins de $70, 235 000 francs congolais ou 240 000 francs.
C'était Espérant Kabalé. On reste en République démocratique du Congo pour écouter Elodie Ntamuzinda.
Personnellement, j'ai remarqué, après toutes ces défaites depuis Bounagana à aujourd'hui, je peux dire que le professionnalisme a baissé sensiblement. Donc, c'est le recrutement qui est mauvais, c'est une conséquence logique. Maintenant, en ce qui concerne ce qui est visible et apparent, les vidéos qui circulent, ce sont des vidéos des militaires sur les lignes de front en train de se plaindre de tout ce qu'il y a comme problème. Donc, il ne s'agit plus d'approcher les décideurs pour comprendre, ou des supérieurs militaires, des officiers, pour comprendre s'il y a un problème ou pas. Les problèmes sont relatés dans des réseaux sociaux et au vu et au su de tout le monde. Et il y a parfois là où la population vide les lieux avant même que les rebelles n'entrent, puisque ce sont les militaires eux-mêmes qui annoncent qui sont en train de reculer. Et lorsqu'un militaire l'annonce comme ça, c'est la psychose et la population court dans tous les sens. Et malheureusement, ceux qui auraient armé les adolescents et les adolescents qui parfois tirent les armes dans tous les sens et au moment où l'entité peut être encore sous l'emprise des FARDC.
Alors, docteur Didier Badjek, vous avez parlé, on a parlé des salaires tout à l'heure, des questions d'équipement. Effectivement, en République démocratique du Congo, certains le dénoncent depuis fort longtemps, ces problèmes de salaire. Toutefois, l'on a beaucoup de cas d'officiers d'armée en Afrique, sans citer certains pays, n'est-ce pas, très bien payés, très bien formés, voire même à l'étranger, et qui en fait renversent les gouvernements. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous auriez à suggérer sur ce problème-là, finalement, parce qu'on parle toujours d'une armée efficace. L'armée efficace, c'est celle qui doit protéger son pays plutôt que de renverser un gouvernement.
Oui, écoutez, je dois déjà vous dire que le militaire n'a rien à voir avec le pouvoir. C'est-à-dire que moi, c'est un combat que nous menons ici au Cameroun avec quelques chercheurs pour leur dire que le management militaire ne pas approprié pour un management civil. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque le critère de la démocratie s'est édulcoré ou a perdu totalement ses marqueurs, eh bien, et qu'il y a des gouvernements qui sont pas démocratiques, eh bien, c'est l'armée qui semble être souvent, n'est-ce pas, l'alternative, et dont même l'action est souvent souhaitée par les populations. Vous avez vu, chaque fois qu'il y a un coup d'État ici en Afrique, c'est les jeunes qui sortent parce qu'il y a un dépit, n'est-ce pas, de la gouvernance qui est mise en place. Bon, déjà, ça, c'est un problème qui est tout à fait différent. C'est un problème qui est politique. Il faudrait que l'Afrique noire, en l'occurrence, puisse revenir sur des chemins qui avaient été commencés après la chute du mur de Berlin. Nous avons l'impression que la démocratie, elle a totalement reculé. Bon, maintenant, lorsque le militaire est formé de manière convenable, il sait deux choses. non seulement il sert dans une armée qui est nationale, mais il se doit d'être, n'est-ce pas, il est républicain. L'armée doit être républicaine, c'est-à-dire qu'elle devrait respecter les institutions et respecter les personnes, la personne qui incarne ces institutions. Encore faudrait-il que ces personnes aient été élues démocratiquement. C'est tout un tout, hein, si vous voulez. C'est-à-dire que les coups d'État aujourd'hui en Afrique peuvent s'expliquer déjà par l'instabilité démocratique qui n'a pas suivi son cours, c'est-à-dire son asymptote qui était prévu après la chute du mur de Berlin avec le vent de démocratie qui a imbibé l'Afrique, mais également, n'est-ce pas, cette gouvernance qui n'est pas transparente, qui ne permet pas la libre expression. Eh bien, tout cela, ça provoque en cohorte mal-être, et puis ça se traduit toujours par des coups de force.
Alors, on se rend à présent en Centrafrique pour écouter la députée, présidente d'ailleurs de la Commission des Affaires étrangères, Béatrice Epaille.
L'armée est une organisation structurée qui a des règles. Être dans l'armée est un engagement. Il faut avoir un âge minimum pour s'engager dans l'armée. En Centrafrique, c'est 18 ans. La personne peut être sans diplôme, mais avoir un minimum de connaissances. Et après, elle va suivre des étapes de formation. Pour être officier, il faut avoir le baccalauréat ou un diplôme universitaire pour être formé dans une académie militaire. Mais quand le recrutement des soldats ne respecte pas les exigences des normes ou des textes réglementaires, et que certains corps ne recrutent que les membres de l'ethnie au pouvoir, s'ils ne sont pas bien formés militairement ou encore en matière des droits humains, ceux-ci deviennent dangereux pour les populations qu'ils sont censés défendre et même pour le régime en place. Il y a aussi dans l'armée des ex-combattants irréguliers, issus des groupes armés insurgés qui ont connu des grades élevés d'emprunt dans les groupes armés et qui ont intégré les forces de défense et de sécurité dans le cadre de désarmement, démobilisation et réintégration après les signatures d'accords de paix successifs que le pays a connus. Mais ces soldats ont aussi besoin de formation, surtout en éthique, déontologie et en droit de l'homme, afin de servir dans l'armée.
C'était la députée centrafricaine Béatrice Epaille. On se rend à présent en Côte d'Ivoire, très exactement à Yamoussoukro, pour écouter un auditeur de VOA Afrique, c'est Youssouf Ouedraogo.
Une armée professionnelle repose sur plusieurs facteurs. D'abord, un environnement politique équilibré, un état de droit respectueux des valeurs juridiques, la valorisation de la compétence et une continuité de l'État qui ne souffre d'aucune influence personnelle comme le tribalisme, le régionalisme ou encore le favoritisme. Au-delà même du professionnalisme, l'équipement de nos armées est dans certains cas destiné à la défense du pouvoir. Et dans d'autres cas, cette concentration de forces sécuritaires finit par prendre le pouvoir, ce qui favorise tout naturellement le populisme encouragé par cette approche personnelle du pouvoir. Le climat politique qui a par exemple prévalu durant l'année 2024 au Sénégal aurait suffi à inciter les militaires de certains pays à renverser les institutions et à prendre le pouvoir. Heureusement, le climat politique sénégalais ne favorise pas une intrusion extérieure dans la sphère politique. Ça, c'est une très bonne chose. Et tous les pays qui disposent d'armées puissantes ont des institutions républicaines qui veillent à maintenir un bon équilibre du climat politique.
C'était la réflexion de Youssouf Ouedraogo. Docteur Didier Badjek, elle a parlé, Béatrice Epaille a parlé notamment des programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion. Il y en a à notamment justement en République démocratique du Congo. Et comment faut-il faire pour que ce type de programme se déroule vraiment de la meilleure façon qui soit?
Je pense que c'est une entreprise qui n'est pas adaptée aux armées africaines aujourd'hui. Et malheureusement, nous l'avons décrié souvent, la démobilisation, désarmement, réinsertion, DDR. Pourquoi? Parce qu'on est en train de mettre à côté des militaires de métier, des rebelles qui n'ont aucune culture militaire, et on a une armée composite, non seulement une armée composite mais avec des militaires, il y a la dame qui l'a fait remarquer tout à l'heure, des militaires qui arrivent, qui ont arboré des grades qui n'ont rien à voir avec des grades militaires et avec tout ce que cela demande comme sacrifice pour les obtenir, eh bien, ça crée des frustrations. Et cette armée qui devrait avoir la capacité d'être homogène pour pouvoir mener des combats ensemble ne peut plus avoir cette qualité-là. Et donc, puisqu'on ne va pas revenir sur la qualité de l'inter-armisation, il voudrait que déjà les trois composantes des armées conventionnelles soient comprises, introduites dans les armées. Ce n'est pas le problème en ce moment. Le problème est d'être capable d'avoir ce qui caractérise l'armée, c'est-à-dire son caractère homogène, avec un corps d'officiers, un corps de sous-officiers et des militaires de rang qui sont formés et qui, n'est-ce pas, puissent appartenir à une chaîne de commandement et des formations qui sont adaptées au niveau soldat, au niveau sous-officier et au niveau officier. C'est ça qui est le véritable problème. Pour ma part, je pense que la réinsertion devrait, la démobilisation devrait avoir lieu, le désarmement aussi, mais la réinsertion, il serait mieux d'orienter ces anciens rebelles vers des services civiques. Il serait beaucoup plus efficace à ce niveau que de rentrer dans des armées conventionnelles pour créer, n'est-ce pas, quelques chagrins aux militaires de métier.
Alors, ce qui est le cas dans certains programmes de démobilisation, effectivement, on propose d'autres formations aux démobilisés. Alors, pour terminer, on va écouter Antoinette Montaigne, qui est juriste, ancienne ministre donc en Centrafrique.
La question du recrutement républicain est un problème vraiment sérieux, récurrent, et que ce recrutement, s'il est fait, il faudrait aligner derrière le sens patriotique de l'engagement individuel dans l'armée, dans le collectif des chaînes de commandement. Deuxième chose, il faut assurer à l'armée une formation continue et une évaluation de ses forces, de ses compétences, de ses capacités par des entraînements militaires avisés pour pouvoir faire face à des situations de confrontation sur le terrain. Et il y a la question de la prise en charge de qualité au quotidien. Beaucoup de militaires n'ont pas la rançon nécessaire pour leur alimentation au quotidien et certains n'ont même pas de moyens de déplacement, de locomotion, de logistique appropriée. Donc, se trouvent en situation de faiblesse à la fois morale et physique. Mais c'est bien de manière régulière, de temps en temps, donner à la population l'état de condamnation des militaires qui sont impliqués dans la désertion, dans les violences contre les personnes ou contre les institutions. C'est très important parce que ça participe aussi de la pédagogie de prise en charge et d'accompagnement des militaires, mais ça participe surtout à l'information des populations qui de plus en plus voient dans leur armée des risques. Donc c'est vraiment important aujourd'hui que les parlements africains prennent à bras le corps cette question d'insécurité dans les différents pays et s'intéresse au fonctionnement de l'armée de manière à ce que cette institution vitale soit bien gouvernée dans l'intérêt des peuples et de la paix générale de tout le continent africain.
Voilà, c'était Antoinette Montaigne, juriste centrafricaine. Didier Badjek, pour terminer très rapidement, vous avez entendu, elle a parlé de la question de la communication de l'armée. Finalement, vous avez servi en tant que porte-parole de la défense camerounaise et vous avez relativement, on va dire, communiqué de manière assez ouverte, d'une manière générale, donc avec les médias. Est-ce que cela, c'est important finalement pour une armée, parce qu'on a l'habitude d'appeler donc les armées les grandes muettes, comme on le sait? Est-ce que c'est important finalement un bon service de communication pour vraiment apporter une certaine transparence au niveau d'un pays et de la population, et pour la population?
Tout à fait. Il faudrait que cette armée puisse également respecter dans son travail, dans ses missions, les lois internationales auxquelles le pays a souscrit, les droits de l'homme, les droits humanitaires, le droit de la guerre, et que lorsqu'il y a des entorses, effectivement, le professionnalisme consiste également à emprunter la responsabilité et dire, n'est-ce pas, être transparent pour être capable, n'est-ce pas, de condamner ce genre d'actes, pour ramener toujours l'armée dans le sens d'une armée professionnelle. Bon, cette communication également accompagne l'action sur le terrain, mais il y a également un autre élément qui est fondamental, c'est qu'elle permet de consolider le diptyque armée-nation. Parce qu'une armée sans sa nation n'est pas efficace et une nation sans armée non plus. Donc c'est un diptyque qui devrait être solide avec des formations solides et avec une doctrine d'emploi.
Merci beaucoup, docteur Didier Badjek, colonel à la retraite, ancien porte-parole de l'armée camerounaise, spécialiste en stratégie militaire et sécurité. Merci beaucoup à tous nos auditeurs. C'était Nathalie Barge pour vous servir et à la production, c'était Firmin Max Koyaweda. Bonne soirée à l'écoute de